So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène? Quel est son champ d'action? Que raconte-t-il encore de notre monde? Comment se renouvelle-t-il? Je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre, tout simplement. Cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Aujourd'hui, mon invitée est l'autrice Penda Diouf. Penda, bonjour.
Bonjour Aurélie.
C'est assez rare de rencontrer des parcours aussi transversaux que le tien. Littéraire, artistique, social, activiste. Tu m'arrêteras si j'emploie des termes inadéquats. T'as dirigé plusieurs bibliothèques à Saint-Denis. T'as mené un parcours universitaire, théâtral. Tu t'engages notamment auprès de Décoloniser les Arts. Tu soutiens la création contemporaine avec le festival Jeunes Textes en Liberté. Tu es fraîchement artiste associé à plusieurs théâtres. En France, on aime bien les cases, les casquettes. Et cette richesse, elle, ressemble à celle des âmes libres et combatives qui veulent changer le monde. Maintenant, j'aimerais te demander en quoi le théâtre est un outil qui te paraît intéressant. Est-il à mettre au service d'une lutte, ou bien vient-il raconter la lutte autrement, et le mot lutte est-il le tien? Est-il temps, plutôt que d'attendre que la parole soit offerte par des âmes généreuses issues de la domination, de prendre soi-même cette parole, sans pour autant se contenter d'un poste de pouvoir ou d'un désir d'inversion du rapport de domination? Je pensais t'inviter, en fait, depuis que nous avons échangé quelques mots à Avignon l'an dernier. Mais qui aurait cru que nous nous retrouverions aujourd'hui, après 2 mois de confinement et une crise sanitaire, l'une face à l'autre, alors que tant de peuples descendent dans la rue pour crier « Black Lives Matter, I can't breathe » contre toute forme de violence policière. Et en France, à l'initiative du collectif d'Assa Traoré, en l'occurrence plus de 10 000 personnes, mardi dernier, le 2 juin, devant le palais de justice pour un rassemblement pourtant interdit par la préfecture. Je dirais qu'on n'a jamais vu autant de gens des quartiers dits issus de l'immigration, en manifestation, le poing levé, criant justice. Ça me donne encore des frissons quand je le dis. Est-ce qu'on arrive à un instant de l'histoire où on ne peut plus nier la mondialisation des luttes, à un instant où les artistes, qu'ils le veuillent ou non, devront s'engager comme ils ne l'ont pas fait depuis plusieurs décennies? L'effondrement permettra-t-il un renouvellement des luttes et des consciences? Ou bien le démantèlement du service public laissera-t-il derrière lui une terre brûlée encore plus précaire? Et le théâtre, dans tout ça, est-il un outil? Une arme pacifiste fonctionnelle.
C'est beau. C'est super beau ce que tu as écrit là. Du coup, c'est difficile de rebondir parce que c'est trop beau. Ça va être très fade ce que je vais dire à côté de ça.
Peut-être... peut-être le théâtre, mon rapport au théâtre. Rapport qui s'est construit assez tardivement finalement. Je devais avoir 18-19 ans Et mon job étudiant, c'était... je travaillais à la MC 93 à Bobigny. Et c'est là que j'ai eu mes premiers chocs esthétiques et théâtraux. Et ça a été quelque chose d'assez fort pour moi et assez fondateur. Et je me suis dit que j'avais envie, moi aussi, de participer de ça. De cette richesse, de cette communion, de cette forme de transcendance que j'avais pu ressentir à cette époque. Et c'est quelque chose qui est précieux, en fait. À la fois cette liberté artistique et la possibilité de convier des personnes. Ouais, de convier des personnes, en fait, à ce moment-là de partage réciproque. Et j'ai envie de dire d'hospitalité réciproque. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Après, il y a des spectacles qui me touchent plus que d'autres. mais l'idée du théâtre, c'est quelque chose de magnifique, clairement. Et je suis contente de pouvoir essayer de m'inscrire, en tout cas, dans ce processus-là de partage, d'écoute aussi, et d'histoire, en fait, d'histoire qu'on se raconte. C'est quelque chose qui vraiment me touche au cœur, quoi. Je me suis souvent posé la question, quel est l'endroit que tu préfères au monde? Et en fait, l'endroit où je préfère être au monde, je crois que c'est une salle de spectacle. Pour voir du spectacle vivant. Après, c'est les bibliothèques. Et je suis contente de pouvoir appréhender les deux. Mais ouais, l'endroit qui me touche le plus et où je me sens le plus renversée, bouleversée, traversée par plein d'émotions contradictoires et très fortes, ça va être les salles de spectacle. Voilà. Pour la suite, tu as parlé des manifestations. Qui sont arrivés après 2 mois de confinement, 2 mois où les médias n'ont parlé que de pandémie et de décès, 2 mois où on a eu peur, où on a appris des gestes de protection, les uns par rapport aux autres, 2 mois où il n'existait plus rien d'autre dans le monde que le décompte des morts le soir et l'incertitude par rapport au lendemain. Et il y a eu deux, je pense, nouvelles assez formidables pendant ce confinement pour moi. La première, c'est peut-être que les scénarios catastrophes concernant l'Afrique, concernant le continent africain, ont été complètement démentis. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des bonnes nouvelles du confinement, de se dire qu'encore une fois, on ne peut pas envisager le continent africain sans parler de pandémie, de guerre, d'envisager des catastrophes, des déplacements de population, des renversements politiques. Et en fait, tout s'est bien passé, et voire même largement mieux qu'ici, en Europe. Et ça, c'est la première peut-être bonne nouvelle du confinement. Et la deuxième, ça a été effectivement cette mobilisation inespéré, inattendu, à l'appel du collectif Adama et d'Assa Traoré devant le palais de justice dans le 17e arrondissement à Paris, et mobilisation qui s'est en plus déployée un peu partout en France et qui faisait écho également à toutes les mobilisations qui ont eu lieu par rapport à la mort de George Floyd aux États-Unis à Minneapolis, et de voir cette que les gens, en fait, ont bravé l'interdit de la manifestation pour montrer qu'ils étaient présents, pour montrer que cette chose-là n'était plus possible, à la fois l'assassinat de personnes noires, à la fois les violences policières et à la fois l'acharnement juridique autour de la famille Traoré. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, qui m'a redonné un peu espoir. Après ces 2 mois un peu mornes de confinement, c'est vrai que il y avait aussi une énergie propre à la jeunesse, mais aussi propre à la mobilisation et à la justesse de cette mobilisation-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis de reprendre un petit peu de force pour la suite et de se dire que tout n'était pas totalement perdu.
C'est vrai que c'était assez inattendu. Quand même. Moi, oui. je l'aurais pas parié du tout.
Moi non plus.
J'étais même plutôt dans cette idée que peut-être on ne verrait plus de manifestations en France avant longtemps.
Ouais, je partage ton point de vue. Moi aussi, j'ai été très surprise lorsque je suis arrivée et que j'ai vu autant de monde rassemblé. Ça a été quelque chose d'assez émouvant. Voilà. Et puis tellement de jeunes gens, quoi. Moi, on m'a appelée madame pendant la manifestation. J'ai été ultra vexée sur le coup. Je vais pas mentir. Mais en même temps, bah ouais, ils étaient là et ils avaient 15 ans. Et par rapport à eux, effectivement, je suis une madame. Et ça, c'était vraiment beau. C'était beau et j'espère que ça va continuer et qu'on va continuer ensemble et collectivement à lutter à la fois sur cette question des violences policières, mais aussi plus largement sur la question du racisme et de nos droits, et de nos droits justement à manifester, quoi. Parce qu'on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, ça a été assez virulent. Et que peut-être si il pouvait y avoir un moratoire autour de la police, et je lance un appel.
Ça va devenir une émission très politique, en fait.
Pour un moratoire sur la police, je pense que ça serait pas mal.
Mais alors justement, dans tout ça, le monde de la culture et de l'art, il y a Camélia Jordana qui a parlé et qui s'est exprimée avec quand même un courage assez fort.
Bien sûr.
C'est la seule. Et par exemple, aux États-Unis, alors ça ne concerne pas les théâtres directement, mais les musées plus. Mmh. Et encore, j'ai regardé le Lincoln Theater à New York. Sur la page d'introduction, il y a un soutien aussi à la cause des Noirs américains. Et sur tous les grands musées aux États-Unis. Mmh. Et je sais qu'à Beaubourg, ils ont discuté éventuellement de soutenir la cause ouvertement aussi. Les théâtres nationaux, les centres dramatiques, les scènes conventionnées en France, j'en suis pas du tout sûre. Et du coup, ça renvoie à cette question que je posais déjà dans mon introduction. Quel engagement pour les artistes ? Est-ce qu'on s'engage dans son art ? Ou est-ce qu'on peut lier l'activisme à une activité artistique ? Et toi, comment tu te situes, ou tu te positionnes, ou tu te questionnes là-dedans ?
Alors, je crois que le Théâtre Auditorium de Poitiers, le jour de la manifestation, de la mobilisation, pardon, a... lancer une, alors je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas il y avait une sorte de message lumineux, en fait, sur les la façade du théâtre, où c'était écrit Black Lives Matter.
Okay.
Voilà, j'ai vu cette initiative là. Après, moi, c'est vrai que si j'ai commencé à écrire, je pense que c'était profondément lié à un sentiment d'injustice, et que de fait mon écriture, ou la façon dont je peux appréhender le théâtre ou mes activités artistiques, sont liées à ce sentiment-là d'injustice. Donc je ne me vois pas écrire. En fait, je pense que la colère est quand même assez... même si j'ai l'air très, très calme et très douce comme ça, je pense que la colère est vraiment quelque chose d'assez important chez moi, et qui est aussi moteur, je pense, de ma création. Et de ce fait, je ne peux pas... mon écriture s'inscrit de fait, en fait, dans ce terreau-là de sentiments de colère, d'injustice, de violence, qui est inhérent, en fait, à notre société. Donc moi, Je me vois mal écrire autre chose, en fait. Je me vois mal. Il y a une telle urgence, en plus, à plein de niveaux différents, ça me semble compliqué de parler d'autre chose que des choses qui me tiennent, en fait, en tant que citoyenne.
Et qui sont reliées à ton histoire personnelle. Tu écris généralement sur ton histoire. Moi, j'ai vu un texte, c'était Piste. Mm. Qui raconte plutôt ton expérience personnelle, mais après, dans d'autres projets, tu vas aussi recueillir des témoignages, mais t'as des grands thèmes, c'est lesquels ?
Mes thématiques, elles tournent beaucoup autour des questions d'identité, de rapport à l'institution ou à l'État, de colonisation, d'étrangéité également, les questions de féminisme et de patriarcat. Je pense que c'est à peu près... Et la question de la folie aussi, beaucoup. Et de plus en plus, depuis quelques années, un rapport à l'écologie et à la nature également, qui se fait assez sentir chez moi. La cause animale... Voilà, c'est des choses qui me traversent. Mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait évoquer des histoires qui sont peu connues, peu entendues. J'aime beaucoup l'histoire, même si j'ai pas du tout de formation d'historienne, mais c'est la question historique et de grands moments historiques qui sont passés à la trappe. Ça, c'est des choses qui me parlent et sur lesquelles j'ai envie de travailler.
À ton avis, pourquoi le théâtre n'a pas disparu?
Parce que c'est un art que tout le monde peut se... Déjà, il y a un besoin d'histoire, en fait. Il y a un besoin de fiction, il y a un besoin de narration, il y a un besoin de se projeter. Et ça ne disparaîtra pas de sitôt. Et que le théâtre permet ça, et sans outils, en fait. On est en face l'une de l'autre, on peut faire théâtre, en fait. Il y a besoin de rien, il y a besoin juste de... personne en fait, de comédiens et d'un public.
En plus maintenant on peut avoir des masques
oui,
et un protocole sanitaire. Exactement. Qui est très théâtral en fait aussi.
Ouais. Donc oui, pour moi le théâtre répond à un besoin fort chez l'humain et je le sens pas du tout concurrencé en fait, les séries par Netflix, par ça je crois pas.
Quel est le premier spectacle que tu as vu et qui t'a marqué?
C'était La Cerise de Jean-René Lemoine à la MC 93, avec une distribution exclusivement afro-descendante.
Que j'ai vue.
Je l'ai vue aussi, mais moi je travaillais à la MC 93, donc on s'est croisés. Et toujours de Jean-René Lemoine, son spectacle qui s'appelait Face à la mer. Était assez incroyable, quoi. Le texte est sublime. Sublime sur le rapport à sa mère. C'était très beau.
Ta plus belle expérience de théâtre?
La mienne? En tant que qu'autrice ou...
Comme tu veux, parce que tu me disais que tu as... Si, tu as déjà joué.
Oui, ah, oui,
c'était pas ta plus belle expérience. Alors, en tant qu'autrice...
Non, je... Aux oubliettes.
Ah oui, carrément.
Non, pas aux oubliettes, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que c'était un texte très... tu m'en parlais tout à l'heure, hein, très autobiographique et avec une charge émotionnelle assez importante. Et du coup, ça a été compliqué pour moi l'après. Ça a été une belle expérience sur le coup. Après, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Je réfléchis. J'en ai eu plein, mais trouver laquelle... Est-ce qu'on peut y revenir après?
Oui, s'il n'y en a pas une qui prédomine, pas d'obligation de répondre. Est-ce que tu as des muses ou des auteurs qui t'ont, ou autrices qui t'ont particulièrement inspirée ou...
Oui, j'en ai. Souvent, mes références, elles ne sont pas que théâtrales. Je pense à quelqu'un comme Leonora Miano, qui écrit du théâtre, mais aussi des romans. Son expérience dépasse du coup l'expérience théâtrale, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont j'aime l'écriture, et je sais pas si je m'en inspire, mais en tout cas je trouve que le propos est ultra pertinent, et la façon dont elle... Marine Diaye aussi, quoi, la façon qui écrit du théâtre, pareil, et des romans, la façon dont elle arrive à tisser l'histoire avec un grand H, les petites histoires... Et cette question d'afropéanité, je trouve ça assez fort.
À quoi es-tu fidèle ?
À moi-même. J'essaye.
Est-ce que tu as déjà trahi tes valeurs ?
J'ai fait quelques grands écarts, des fois. Pas au point de ne pas pouvoir me regarder dans la glace après. Donc ouais, j'ai fait quelques compromis, on va dire, mais pas de compromission.
Alors, est-ce que tout aurait été différent si tu avais été un homme ?
Oui. Oui, je pense, si j'avais été un homme, et si j'avais été un homme blanc, oui, je pense que plein de choses auraient été différentes dans mon choix d'études, dans ma perception aussi, dans mes projections, dans ce vers quoi j'aurais pu me destiner, me rêver, dans mon imaginaire, en fait. C'est, plein de choses auraient été différentes, clairement. Je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, mais dans mon parcours, j'ai l'impression d'avoir plus souffert, plus jeune, d'avoir été noire que d'avoir été une femme. Le fait d'être une femme et le fait d'être noire, les deux peuvent jouer soit à égalité, soit prendre le pas l'un sur l'autre selon les situations. Mais c'est vrai que si je devais me rappeler mes difficultés, ça sera plutôt des difficultés liées au racisme plutôt qu'au sexisme. Ça n'empêche pas que j'ai connu du sexisme aussi dans mon parcours et que parfois aussi le sexisme est caché derrière le racisme. Voilà.
Et inconscient aussi.
Complètement. Ouais. Complètement. Mais du coup, oui, j'aurais tendance à dire si j'avais été un homme blanc. Parce qu'un homme noir, je pense que ça aurait été compliqué aussi, en fait.
Ouais, surtout pour les contrôles de police.
On est d'accord. On est d'accord.
Alors, je me demandais si tu utilises le mot racisé ou racialisé ou les deux et comment tu le défends et quel est le combat de ce terme. Parce qu'il est très discuté et en même temps, il est souvent utilisé par les minorités opprimées, ce qui le réhabilite. C'est-à-dire que moi, je vais être par exemple en capacité de l'utiliser parce que je sais que des personnes qui sont directement concernées l'utilisent, mais en même temps... C'est un mot qui fait violence dans l'histoire française et dans le vocabulaire français parce qu'il est justement lié au racisme et que tous les gens qui ont pu combattre le racisme ne comprennent pas comment est-ce possible d'utiliser ce mot ou de le réutiliser ou de se l'approprier. Je ne sais pas comment tu le...
Alors moi, effectivement, c'est des termes que j'utilise. Ensuite, ce sont des termes qui ont été empruntés au vocabulaire sociologique. Comment une personne peut être vue d'une autre race au niveau sociologique. Et du coup, pour ça, moi, je trouve que le fait de montrer le processus, en fait, c'est ultra pertinent. C'est ultra nécessaire également. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que ça pose question et que ça pose problème, parce qu'on a envie de se mettre à distance de ce processus-là en disant bah, « non, moi pas du tout », etc. Mais je trouve que ce terme, par toutes les questions qu'il englobe, justement, il est nécessaire, aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire que ce terme il sera utilisé dans 10 ou 15 ans. Effectivement, il fait violence, mais peut-être qu'il fait aussi violence pour les personnes qui l'utilisent. Mais qu'à un moment, si on n'a pas les mots, en fait, on ne va pas pouvoir combattre. On utilise le terme « racisme » de toute façon. Et ça n'efface rien à la réalité qu'est le racisme, en fait. Donc, s'il suffisait de supprimer un mot...
Et justement, moi, j'ai la sensation que ça arrive après une certaine période de déni, dans les années 90, où on avait cette France black-blanc-beurre complètement égalitaire.
Une forme de colorblind, ouais.
Et qui était en même temps une belle époque... Et en même temps, qui cachait une forme de déni, et du coup, ça ressort. Enfin, moi, dans mon histoire de trentenaire, c'est comme ça que je l'analyse.
Effectivement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a pas mal bougé. À l'époque, on parlait de... Ouais, c'était « touche pas à mon pote », c'était l'idée qu'on est tous pareils, black, blanc, beurre, effectivement, que je suis aveugle aux couleurs, mais on sait bien que... Quoi, on sait bien. Oui, on constate, on le sait, que lorsqu'on on est noir ou arabe, on a 8 fois plus de chances d'être contrôlé par la police lors d'un délit de faciès, on aura moins de chances de trouver un appart, de trouver un boulot, et que ça nécessite un terme, en fait. En plus que celui de la discrimination, et que le terme racialisé, pour moi, il tape là où ça fait mal, en fait. Voilà. Et pour ça, il faut l'utiliser.
Qu'est-ce qui te donne de l'espoir ?
Ben, là, je dirais les manifestations et les mobilisations autour de George Floyd, d'Adama Traoré. Ouais, ça serait ça. Ici, en Europe, ça serait ça. Et après, je trouve qu'il y a plein de choses aussi passionnantes qui se déroulent sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest. Je sais pas, je parlerais à la fois d'esprit d'initiative, je parlerai de que c'est le continent, par exemple, qui produit le moins de CO2 au monde, que c'est le continent qui... Alors là, je parle vraiment de continent, hein. Je sais que c'est 54 pays, mais qui a un écosystème, une faune et une flore absolument incroyables, et par exemple un pays comme le Rwanda, qui sait parfaitement à la fois le valoriser et à la fois faire en sorte que les habitants puissent en jouir, puissent en profiter. La croissance, alors on va parler de croissance, hein, mais la croissance du Rwanda actuellement, elle est assez impressionnante également. Que c'est un pays qui est ultra, ultra vert et qui, effectivement, sur les questions écologiques, n'a rien à envier à d'autres pays ou à d'autres continents, quoi.
Alors, on arrive vers la fin.
Ouais, déjà.
Tu n'en serais pas là si...
Alors, je pense si mes parents ne m'avaient pas poussée à l'école. Même si j'aimais bien l'école, mais mes parents m'ont vraiment beaucoup poussée. Ils m'ont toujours élevée dans l'idée qu'il fallait que j'en fasse deux ou trois fois plus que les autres. Ça a servi pour moi. Alors, malheureusement, des fois, ça ne suffit pas. En tout cas, moi, j'ai eu la chance que ça aille, que je puisse faire et vivre de ce que j'aime faire. Je pense aussi que j'ai rencontré des bonnes personnes aussi au bon moment, j'ai été bien entourée, et qu'il faut aussi une dose peut-être d'audace et d'inconscience aussi.
Voilà, je pense que tu viens de répondre à ma question suivante, qui était quel conseil pour les générations futures ?
Confiance, audace, et ne pas attendre qu'on vous laisse une place à la table ou qu'on vous ouvre la porte. Voilà, il faut donner un grand coup de pied dedans.
Mmh. Trois livres de chevet.
Alors, ça va paraître très, très gnangnan, mais Jeanne Eyre de Charlotte Brontë. Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Et peut-être Marie Scondé, Tituba la sorcière.
Trois femmes.
Puissantes.
Et pour terminer... Est-ce que tu aurais un vers, une réplique ou une citation que tu aurais envie de nous partager pour conclure ?
Ouais, je sais pas, je pense à Baudelaire, je crois que c'est l'albatros. Ses ailes de géant l'empêchent de voler. Je crois que c'est le dernier vers. Voilà, j'aime bien celui-là. J'aime bien aussi... ce vers de Rimbaud, le dormeur du Val ne dort pas, et il est mort et son corps est rigide d'effroi. Voilà.
Ok.
Ouais, je réfléchis.
T'es pas satisfaite ?
Non, mais c'est un peu triste là. J'essaie de trouver un truc un peu plus gai. C'est pas un vers, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui me parle en ce moment. C'est une phrase de Toby Nathan qui dit « Les rêves marchent par la bouche. » Voilà.
Merci
Je
beaucoup.
Je préfère terminer là-dessus.
Merci beaucoup, Penda.
Merci à toi. Merci beaucoup.
C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.